Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
Si j'en ai perdu la tête, je t'ai aimé.
Soleil, un coup d'amour, un coup, je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle.
Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas.
Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde sa douceur et sa beauté.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots. Mais
je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux.
Je t'aime.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, on se retrouve, émission épisode 19, saison 2. On va pas compter celle de la semaine dernière parce que j'étais pas présente. Pour ceux qui étaient en onde, il y a eu une rediffusion d'un artiste qui était passé en tout début d'année, qui s'appelle Axel de la Paix. Et c'était une interview totalement spontanée, qui avait pas été prévue en amont. Et ça avait été un bon moment. Il parlait d'un titre qu'il avait écrit et qui était en lien avec, avec une relation amoureuse. Donc c'était parfaitement dans la thématique de l'émission. Voilà, alors l'idée c'est que je suis en train de prévoir deux, trois émissions avec, avec des invités dans les semaines qui viennent. Voilà, ce soir on est vous et moi en intimité. Si vous voulez rebondir, ça reste toujours possible. Vous appelez au 04 56 14 23 54, ça c'est le numéro de News FM, donc vous le retrouvez de toute manière, si vous n'avez pas eu le temps de le noter, vous le retrouvez sur le site internet. Ou alors il y a toujours le numéro de portable 06 15 94 36 51. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à continuer à découvrir ce que le monde très intéressant de la relation à soi et de la relation à l'autre. On va continuer à monter en conscience sur qui on est, comment on fonctionne et comment on peut mettre en place une relation qui soit saine avec l'autre. Donc l'idée, vous le connaissez maintenant, quand j'ai pas d'invité, c'est que je vous propose des capsules. Et là, j'en ai deux pour ce soir. Voilà, j'ai deux belles capsules de deux personnes extraordinaires, deux personnes françaises. Des fois, il y a des personnes... Non, Jacques Salomé, il est français. Il y a des Canadiens qui sont assez fortiches aussi dans la relation à l'autre. Mais là, effectivement, on est sur du purement 100% français. Donc on a Jacques Salomé. Je vous ai déjà passé des extraits de cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui est un maître dans la relation à l'autre. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a travaillé 50 ans sur le sujet. Donc on va commencer avec lui. Il va nous parler de la relation amoureuse et comment il est nécessaire au départ d'apprendre à s'aimer. Déjà soi-même pour pouvoir aimer réellement l'autre en fait. Voilà, c'est plein de sagesse, vous allez voir, c'est plein de petites pépites, de choses très très simples, mais à côté desquelles on peut passer si forcément on ne les entend pas, si on ne nous en parle pas. On se dit c'est logique, mais on a tendance à ne pas y penser. Voilà, alors ça va être intéressant. Et puis la deuxième capsule, ça sera Laurent Gounelle, c'est un écrivain qui a écrit plusieurs titres, qui est aussi reconnu dans la sphère du développement personnel, et qui a écrit notamment, je pense que c'est un des livres, alors il faudrait que je retrouve le titre, mais il y a notamment Le jour où j'ai appris à vivre, et je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Je crois qu'il y a un livre, je vais retrouver, qui dit... J'ai commencé à vivre à partir... Enfin, je vais vous retrouver le titre. Je vous le donnerai avant de passer son extrait, mais c'est un titre qui, je pense, vous parlera. Et puis entre, on aura effectivement des extraits d'humour et puis de la musique, comme d'habitude. Voilà. Alors, ce que je vous propose, on commence avec Jacques Salomé, une pépite. Donc c'est une interview. Hein. Donc vous allez voir, c'est à la base, on part sur une interview. Mais dans cette interview, il va nous énoncer un certain nombre de petites choses extrêmement enrichissantes sur la relation à soi. Voilà. Allez, on se lance et à tout de suite.
Bonjour les surfeurs quantiques, c'est Shadi sur Vajra Holistique et aujourd'hui je suis vraiment très très contente d'être avec Jacques Salomé qui est un grand spécialiste de la communication dans les relations humaines. Bonjour Jacques.
Bonjour à vous.
Jacques, vous venez de publier un nouveau livre qui s'appelle Voyage au pays de l'amour. C'est un livre sur les relations amoureuses.
Oui. Non seulement sur les relations amoureuses, mais justement comment vivre ce difficile passage de la rencontre amoureuse qui se vit au présent avec des projets à court terme à la relation de couple. Quand l'un ou l'autre dit, bien, on voudrait aller plus loin et s'inscrire dans la durée. Et la plupart des couples échouent là-dessus car ce qui préside à la rencontre amoureuse, attirance, désir, sentiment, affinité, projet à court terme pour le week-end prochain, pour les vacances de Pâques qui arrivent, peut-être pour les vacances d'été, n'ont rien à voir avec ce qui doit être présent dans la relation de couple. Il y a 5 conditions pour vivre en couple dans la durée. Être délié, pour s'allier, mettre une alliance, il faut être délié. Si je vous disais les chiffres, vous allez être effrayés. 40% des couples, un des deux, n'est pas délié, soit de sa mère, de son père ou d'un précédent amour. Pour s'allier, être délié. Deuxièmement, être capable de s'engager. Et être capable de s'engager, ça veut dire choisir. Choisir, c'est renoncer. Si je vous choisis, je renonce aux 3 millions, enfin, elles ne sont pas toutes candidates. Je renonce aux autres. Et si vous me choisissez, vous renoncez à vivre avec d'autres hommes, ce que vous pourriez vivre avec moi. Et s'engager, ça veut dire aussi avoir une capacité d'autonomie suffisante pour pas faire dépendre ses besoins de l'autre. Ce qui fait que au début d'une relation amoureuse, si l'un dit « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour vivre », il faut fuir à toutes jambes parce qu'il va vous mettre au service de ses besoins. Il va vous mettre en dépendance. Donc, être délié, s'engager, se projeter dans l'avenir. Est-ce que je me vois vivre ? Est-ce que je me vois vivre avec cette femme ? Est-ce que je me vois vivre avec cet homme ? Est-ce que je la vois comme la mère de mes enfants ? Est-ce que je le vois comme le père de mes enfants ? Et la dernière des conditions, se proposer une relation suffisamment vivante. Parce que ce n'est pas l'amour qui maintient deux êtres ensemble dans la durée. C'est la qualité de la relation. Et aujourd'hui, cette qualité manque. 2 couples sur 4 se séparent.
Et justement, par rapport à ce que vous me dites, le sujet sur lequel j'aimerais que nous parlions, c'est le fait que souvent, nous, dans une relation de couple, nous sommes tiraillés entre le besoin d'espace et le désir d'intimité. Et c'est assez difficile de pouvoir gérer ça.
Non, c'est très juste ce que vous dites. Ça veut dire que dans tout couple, il y a ce que j'appelle des forces d'éclatement et des forces de cohésion. Et toute la vie d'un couple va être cette tentative de cohabitation entre forces d'éclatement, besoin d'espace, besoin de liberté, besoin d'intimité personnelle, et en même temps des forces de cohésion, partager le plus de choses possible, intimité commune et partagée. Donc, un couple, c'est cette cohabitation entre intimité personnelle et réservée. Il y a des choses, ma chérie, que je ne vivrai pas avec toi, que je vivrai pour moi, et il y a des choses que je vivrai avec toi. Intimité personnelle et réservée, intimité commune et partagée. Il y a la question du territoire. Dans tout couple, que ce soit un appartement ou une maison, qu'importe, chacun devra avoir un espace qui est à lui, sur lequel l'autre n'aurait pas à mettre les pieds. Ça ne peut être qu'un fauteuil parfois, un petit coin, si on a une chambre, tant mieux, une pièce. Parce que, par exemple, quand vous rentrez du travail le soir, vous n'avez pas toujours envie de rencontrer l'autre. Vous avez surtout besoin de vous rencontrer vous. Et vous rencontrez vous en premier pour pouvoir mieux rencontrer l'autre et partager tous les possibles d'une soirée, pas simplement un repas, mais des partages, des échanges, une relation sexuelle ou intime, etc. Donc, ce difficile combat risque d'affrontement entre force et d'éclatement et force de cohésion, tous les couples le vivront. Voilà. Et c'est à nous de d'abord en parler. Moi, j'ai mis, par exemple, 12 ans avant de comprendre, 12 ans dans ma vie de couple, avant de comprendre que dans un week-end, j'avais besoin de 2 heures à moi. Vraiment 2 heures. Mais je disais, je vais acheter le journal. C'est au coin de la rue. Je revenais 2 heures après. Je disais, t'as mis longtemps. Elle aussi, elle avait besoin, par exemple, elle prenait un bain, elle installait des parfums, une petite planchette pour lire. Et si je voulais rentrer dans la baignoire avec elle, elle dit, ah non, non, c'est mon temps d'intimité. Nous avons, c'est un de nos besoins fondamentaux, le besoin d'intimité. Donc, besoin de se rencontrer, de s'isoler, besoin d'intimité personnelle et aussi besoin donc de partage, d'amplification, de rencontrer le meilleur de soi pour éventuellement rencontrer le meilleur de l'autre.
Également dans une relation amoureuse, souvent quand j'ai quelque chose de sensible à dire dans ma relation, alors ou je vais le dire avec les mauvais mots au mauvais moment, ou alors, et là bien sûr il y a confrontation, il y a dispute parce que l'autre ne comprend pas ce que je veux dire. Ou alors je vais pas oser le dire. Et là, je suis face à ma propre frustration.
Alors, j'ai 77 ans, j'ai écrit 64 livres, donc j'ai un passionné de relations humaines, dont j'ai inventé ce que j'appelle des règles d'hygiène relationnelle. Et le couple est le creuset, le lieu idéal pour mettre en application, le couple et plus tard la famille, quand on a des enfants, pour mettre en application ces règles d'hygiène relationnelle. Et il y en a une que j'enseigne qui est vitale pour le couple, c'est apprendre à demander, à donner, à recevoir, à refuser. Si je vous disais que jusqu'à l'âge de 36 ans, je ne savais pas demander et je ne savais pas dire non, donc je privilégiais le donner et le recevoir, je donnais, j'ai tout fait l'autre. Je l'ai tout fait par tout ce que je voulais donner. Imaginez un tonneau de 200 litres qui veut remplir une bouteille d'un litre. C'était moi le tonneau. Je l'ai noyé. Et au niveau du recevoir, j'étais une véritable poubelle. Je recevais n'importe quoi. Je ne savais pas demander parce que je vais faire sourire ceux qui m'écoutent. Parce que j'étais dans cette croyance, plus fréquente qu'on ne le croit chez beaucoup d'hommes, que si tu m'aimais vraiment, ma chérie, tu devrais entendre mes demandes sans que je les fasse. C'est de la folie, ça. Le soir, j'étais comme ça dans le lit. Et ça voulait dire, tu vois pas que j'ai envie de faire l'amour? C'est curieux, ça lui donnait pas envie. Ce qui faisait, ma chérie, qu'ensuite je te reprochais de jamais entendre les demandes que je te faisais pas. Donc, si nous respectons cela, alors donc si je vous demande, par exemple, de m'écouter, au niveau du recevoir, c'est à vous de vous positionner en me disant, écoute, je sens que c'est important pour toi peut-être de parler, mais tu risques de pas avoir mon écoute parce que je suis pas disponible. Ça, c'est très important. Donc, ça marche. C'est moi qui demande une écoute. C'est vous qui allez me la donner, votre écoute, ou recevoir ce que j'ai à vous dire. Vous avez à vous définir clairement. Et un des pièges du couple, c'est qu'on a peur de faire de la peine, de faire mal, d'être moins aimé ou d'être vu comme égoïste. Et alors, on va faire semblant d'écouter. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, etc. Et on a une pseudo-écoute où on va rejeter, on va déclencher des réactions. Donc si on respecte, voyez-vous, ces 4 règles d'hygiène relationnelle. Au niveau du refuser, par exemple, je ne savais pas refuser. Donc vous avez une idée des faux oui que j'ai dit à ma blonde, qui était brune, pendant des années. Aujourd'hui, j'ai appris à dire non. Et paradoxalement, c'est ça qui m'a appris à dire des vrais oui, qui m'engageait. Donc, respecter ces 4 balises, ces 4 points de repère. Ma grand-mère disait, à défaut de père, il vaut mieux avoir des repères. Apprendre à demander, ça veut dire prendre le risque de la réponse de l'autre. Parce qu'autrement, c'est pas une demande, c'est une exigence. Apprendre à donner, comme dirait ma fille, gratos, sans contrepartie, apprendre à recevoir le bon et à remettre chez l'autre ce qui n'est pas bon pour nous, les messages toxiques qui sont fréquents dans le couple, et apprendre à dire non. Avec cette précision de dire, c'est pas à toi que je dis non, c'est à ta demande. Par exemple, un des malentendus du couple, la rencontre sexuelle. Un a un désir, l'autre n'a pas le même. Quand tous les deux ont des désirs en réciprocité, c'est formidable, c'est la fête des corps. Mais parfois, un du désir et l'autre n'a pas le même désir. Eh bien, celui qui dit non, il devrait dire, attends, c'est pas à toi que je dis non. C'est à ta demande de faire l'amour. C'est pas toi que je rejette. J'ai pas le même désir que toi. Je dis non à ton désir de sortir, de faire l'amour, d'aller chez ta mère ou d'aller au cinéma ce soir. Voilà.
D'ailleurs, par rapport au désir, c'est un grand dynamique, le terme de désir. Et on mélange un peu le fait de désirer l'autre et de passer à l'acte.
Tout à fait.
Et c'est là d'où vient l'infidélité, c'est deux choses complètement différentes.
C'est un des cancers de la relation. Alors là aussi, une règle d'hygiène relationnelle, je reviens toujours sur ce mot que j'enseigne, c'est il ne faut pas confondre le désir vers l'autre et le désir, voyez mon mouvement, sur l'autre. J'ai le désir de faire l'amour avec ma partenaire, ça c'est formidable. Là où ça se complique, c'est quand je voudrais que tu aies envie de faire l'amour avec moi. Voyez le mouvement. Ça c'est un désir terroriste. Qu'il y ait du désir qui circule dans un couple, c'est formidable. D'ailleurs, c'est le signe que nous sommes vivants ou que la relation est vivante. Parce que le jour où il n'y a pas de désir dans une relation, c'est que la relation est stérilisée, elle est dévitalisée. Donc, mais ne pas confondre désir vers et désir sur. Voilà. Et vous l'avez très bien dit, je peux avoir le désir ce soir de faire l'amour. Et c'est un bon désir, je peux rester habité par ça. Mais nous confondons le désir et tout de suite réalisation. Et quand l'autre nous dit non, nous croyons que ça va blesser notre désir. Non, il ne se concrétise pas, il ne se réalise pas ce soir ou à ce moment-là.
Également, pour pouvoir vraiment aimer, la première condition, c'est de s'aimer, d'avoir un véritable amour envers soi-même.
Je vois que vous m'avez lu parce que c'est ce que je tente d'enseigner. Si je ne m'aime pas, je serai dans le besoin d'être aimé. Ça, c'est une règle fondamentale. C'est les parents qui devraient apprendre ça à leurs enfants. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est pas tant de l'aimer que de lui apprendre à s'aimer. Parce que s'il ne s'aime pas, il sera sans arrêt dans le besoin d'être aimé. Et il dira, je t'aime, et ça veut dire, voyez, aime-moi. Voyez mon geste, je vous tire à moi, j'essaie de vous posséder. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de relations amoureuses vont échouer. Non pas par manque d'amour, contrairement à ce qu'on croit, mais par une qualité de la relation qui n'est pas présente. On propose des relations de possessivité, des relations de contrôle. Voilà. Donc, premier enjeu, apprendre à s'aimer. Ce qui fait d'ailleurs que chaque fois qu'on parle amour, on devrait ajouter un qualificatif. En fait, on devait parler du don d'amour. Voilà. Et pour que je donne de l'amour à l'autre, encore faut-il que j'en aie à moi. J'ai 77 ans. Il a été écrit des millions de livres sur l'amour. Toute la littérature tourne autour de l'amour. Mais voilà où j'en suis, moi, aujourd'hui. La meilleure image qui me permet de comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour, c'est l'image musicale. Moi, je crois que l'amour est d'ordre vibratoire. Si je suis un amour, comme disaient les Québécois avec vous, ça veut dire que j'ai un amour en moi qui vibre dans votre direction et pas dans une autre. Et bien sûr, nous attendons la réciprocité. Cet amour qui vibre dans votre direction, quelque part j'attends que vous ayez également une vibration chez vous qui vibre de préférence dans ma direction. Et quand ces deux amours, c'est pour ça que je pense que l'image musicale est celle qui permet certainement d'expliquer au plus près ce que peut être l'amour. C'est semblable à une note de musique qu'il y a chez moi, une note de musique qu'il y a chez vous ou chez l'autre, et quand ces deux notes de musique se rencontrent, qu'elles vibrent ensemble, qu'elles s'harmonisent, et que ça fasse du Mozart ou du Bach ou du Jean-Jacques Goldman, ça c'est ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, de rencontrer au moins une fois dans leur vie un amour qui vibre en eux, qui vibre en eux, qui rencontre notre amour, qui vivent dans leur direction et que cet amour s'accorde, eh bien c'est plus rare qu'on ne le croit. Et pour moi, c'est un des mystères de l'amour. Qu'est-ce qui fait que des fois, et ça m'est arrivé dans ma vie, qu'est-ce qui fait que je me sens en amour vers quelqu'un? Ça vibre. je sens que l'autre m'aime, je sens qu'il y a de l'amour chez l'autre, ça vibre. Mais quand ces deux amours se rapprochent, telles deux notes de musique, elles ne s'accordent pas. Ça fait un couac. Et alors le drame, c'est qu'on va rester ensemble avec l'espoir que ça s'accordera. J'ai 77 ans, je n'ai jamais vu un couac se transformer en Mozart. Donc il faudra avoir le courage de renoncer à la relation. On va se faire souffrir, on va se pourrir la vie, on va galérer pendant des années avec l'espoir. Ça, c'est un des mystères de l'amour. Qu'est-ce qui fait que certains amours s'accordent, vivent ensemble, et que d'autres ne s'accordent pas, ne vivent pas ensemble? L'autre mystère de l'amour, c'est que nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. Je vous aime ou j'aime l'autre. Je ne sais pas si mon amour pour vous, pour l'autre, durera 3 ans, 4 ans, 40 ans. Vous ne savez pas ou l'autre ne sait pas la durée de vie de son amour. C'est pour ça que c'est toujours, toujours une relation à risque. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le vivre au présent. Le vivre au présent. Si vous êtes en amour, si l'autre est en amour, mais il n'y a rien de plus merveilleux qui puisse nous arriver. Vivons-le au présent, puisque nul ne sait à l'avance la durée de vie de l'amour. Quand je parlais de ça à mes enfants, ils se mettaient à hurler. Mais papa, quand on aime, c'est pour toujours, etc. Et ils ont découvert très rapidement, que un amour, comme tout ce qui est vivant sur cette planète, toute l'histoire de l'humanité nous l'apprend depuis toujours. Le propre du vivant sur cette planète, c'est que ça a une durée. Et que pour que ça dure, d'ailleurs, il faut l'entretenir. Donc, il faut proposer à son propre amour et à l'amour de l'autre une qualité de relation qui va faire que ces amours vont durer, perdurer et peut-être s'épanouir ensemble. Ou, s'il n'y a pas une relation de qualité, se stériliser, se dévitaliser. Et on se réveille un matin, 10 ans après, 15 ans après. Qu'est-ce que je fais là? Si je suis honnête avec moi-même, je ne peux plus appeler amour les sentiments que j'ai vers l'autre. Alors je lui dis, j'ai de l'affection pour toi. Affection. C'est un mot redoutable. Parce qu'on dit aussi, j'ai une affection pulmonaire. Il faut se méfier de ce mot.
Merci beaucoup Jacques, c'était vraiment un plaisir.
Merci.
De vous avoir avec nous.
Voilà.
Merci.
Alors, monsieur avec un savoir extrêmement précieux, vous retrouvez des interviews de lui ou des vidéos où il s'exprime sur YouTube bien sûr, et puis vous avez tous ses livres. C'est une bible de la relation à l'autre. Ok, donc là ce que je vous propose, on se fait une petite pause dans un premier temps musical et on enchaîne avec un sketch. Et puis après on se retrouvera pour la deuxième capsule. Allez, à tout à l'heure.
Merci. Merci beaucoup. Je suis un peu stressée d'être avec vous ce soir parce que ça fait quelque temps que j'ai pas fait de stand-up. Parce qu'en fait, il y a 5 mois, j'ai donné naissance à mon 2e enfant. Merci. Je m'attendais à plus. Et je suis d'autant plus heureuse d'être avec vous ce soir parce que si je suis avec vous, ça veut dire que je suis pas avec mon mec. Et ça, ça fait grave plaisir. Ah, je vous jure, je peux plus me voir. Alors, ça a commencé pendant la grossesse. Hein. Alors, au début, je me suis dit, bon, bah, c'est normal, hein, c'est les hormones. Après, je me suis rassurée en me disant, bon, bah, c'est normal, c'est le postpartum. Et en fait, c'est normal. C'est un homme. Je vous jure, des fois, il me parle, j'ai juste envie de lui dire, ferme ta gueule. Mais bon, après, attention, hein, il a des qualités, hein, il est beau. Et c'est tout. Non, franchement, il est grave beau. Franchement, il est plus beau que moi. Imaginez la bombe. Hyper vexant. Franchement, au début, il m'impressionnait tellement par sa beauté, au début de notre histoire, qu'il m'impressionnait, quoi. Parce qu'à l'époque, je trouvais pas que beau. À l'époque, je le trouvais beau, drôle, intelligent, pas toxique. Il avait l'air de s'intéresser sincèrement à moi. Je me suis dit, attends, c'est quoi cette histoire, là? Eh oh, eh, il y a Anguille Souroche ou quoi? Il a une petite bite. Enfin, on n'est pas sur un micro-pénis non plus, hein, mais c'est juste que quand on le voit, on se dit pas genre « Waouh ! Mais c'est énorme ! Mais pourquoi cette jambe n'a pas de genou ?» On se dit pas ça. Hein. Et du coup, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, et on dit que l'amour dure 3 ans. Alors ça, par contre, c'est complètement faux. Hein. Franchement, si je suis hyper honnête, 1 an et demi. À tout péter. Et moi, heureusement, au bout d'un an et demi, il m'a demandé en mariage, donc ça a un peu relancé le truc. Et ça fait donc maintenant 5 ans qu'on est mariés. Et depuis, bah, j'attends que la mort nous sépare. Et le mariage, c'est drôle parce que ça te permet de découvrir des trucs sur l'autre que tu ignorais totalement. Moi, par exemple, c'est grâce au mariage que mon mari a découvert que la blandine marrante, pétillante, pas prise de tête, n'existait pas. Alors, grâce au mariage, il a découvert mon vrai visage. Il a découvert qu'en vrai, j'étais légèrement excessive, hystérique, possessive, impulsive, colérique, bordélique, émotive. Mais pas jalouse. Non, je suis pas du tout jalouse. Je l'ai même déjà envoyé en club de striptease. Vous savez, cet endroit où on glisse de l'argent dans ce qui reste de la tenue de l'artiste. Et ce soir-là, bah, il s'était fait 1200 euros. Et je suis pas du tout jalouse parce que je sais exactement ce que je vaux et je sais qu'il trouvera jamais mieux que moi. En même temps, s'il me quitte... Qui voudrait d'un eunuque aux yeux crevés? Et puis grâce au mariage, il a surtout découvert mon vrai visage au sens propre. Hein. Il a découvert qu'en vrai, bah, j'étais moche. Alors là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Arrête Blandine, t'es grave mignonne. On dirait pas que t'as pris 25 kilos pendant ta grossesse. Je te baise. Un peu de respect. Mais merci. Mais en fait, là, ça va vous paraître dingue, mais là, si je fais illusion, c'est parce qu'en fait, là, je suis maquillée. Ah, c'est tout. Vous savez qu'il y a des filles, quand elles se démaquillent, elles changent de visage. Moi, quand je me démaquille, je change de sexe. Un homme. On m'appelle monsieur. La dernière fois, à l'épicerie, j'avais pas épilé ma moustache, on m'a appelé chef. J'avais le seum. Mais bon, mon mec peut pas trop se plaindre, hein, parce que lui, pour changer de sexe, il lui suffit de prendre un bain d'eau froide, alors. Et des fois, je me dis, mais comment on a fait pour en arriver là, alors qu'on s'aimait tellement au début? Je me rappelle, au début, je l'aimais tellement que dès qu'il parlait, ça me fascinait. Dès qu'il ouvrait la bouche, j'étais là. Oh, non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est incroyable. Alors que maintenant, dès qu'il ouvre la bouche, je suis là. Waouh. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, parce qu'en plus, c'est ça la chute de ton histoire? Ah ouais, c'est... Ah non, c'est chaud, comment c'est pas intéressant, en fait? C'est quoi, on va faire un pacte, toi et moi? Considère qu'à chaque fois que ça concerne ton vélo électrique, bah j'en ai rien à foutre. Et au début de notre histoire, je l'aimais tellement que j'avais pas faim. Genre, j'oubliais de manger. Non. Qui oublie de manger? À part les connasses qui ont pas les cuisses qui se touchent, là? Vous savez ce que je dois faire, moi, pour pas avoir les cuisses qui se touchent? Le grand écart. Je sais même pas le faire. Hein. Moi, j'ai tellement les cuisses qui se frottent qu'en été, j'ai une légère odeur de bacon qui me suit partout. Et c'est pas pour me déplaire. La légende raconte que si je fais Koh-Lanta, en un jour avec mes cuisses, je fais du feu. Et donc, au début de notre histoire, j'étais là, je rayonnais, pommettes saillantes. Regardez dans quel état je suis. J'ai tellement grossi du visage que j'en ai perdu une fossette. Je vous jure, c'est vrai. Bah là, oui. Et là, non. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce que j'ai plus d'occasion de sourire. Alors. Et donc, au bout de 3 ans de mariage, ça nous semblait évident, on a fait un enfant, hein, histoire de vivre à nouveau avec quelqu'un qu'on aime. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'était Blandine Lehoux. Merci.
Voilà, c'est Blandine Lehoux. Ça s'appelle L'amour, c'est venu à deux.
Ok, alors on continue avec la deuxième capsule du jour. Laurent Gounel. Alors je vous avais dit, Laurent Gounel, son livre qui a bien marché. Bon, moi je l'ai pu aller, c'est sur Internet, ça rame. Donc, c'est une conférence TEDx. Et ça s'appelle « Devenir pleinement soi-même ». Donc, il parle de son expérience. Mais comme à chaque fois, quand quelqu'un parle de soi, ça peut être nourrissant. Voilà, on écoute ça et on se retrouve après.
Bonjour. Je vous dis bonjour, mais en fait, je ne sais pas qui vous êtes. D'ailleurs, je meurs d'envie de vous le demander à chacun d'entre vous. Mais vous êtes 900, alors ça prendrait un peu de temps. Puis vous ne seriez peut-être pas hyper à l'aise de dire qui vous êtes devant 900 personnes. Mais bon, imaginons que je sois seul avec chacun d'entre vous. Tranquille, hein, on va dire on est en tête à tête, peut-être, je ne sais pas, dans un restaurant, tenez, au bord de l'eau, un peu plus loin. Et je vous pose la question, qui êtes-vous ? Franchement, qu'est-ce que vous pourriez me répondre ? Vous allez peut-être me donner votre nom. Je suis Jean Dupont ou Isabelle Durand. Ok. Et vos parents auraient pu choisir un autre prénom ou vous transmettre un autre nom. Auriez-vous été un autre pour autant ? Pouvez-vous définir aussi par votre profession ? Je suis commercial, comptable, secrétaire, ingénieur. Ok. Et vous auriez pu choisir un autre métier, n'est-ce pas ? Seriez-vous quelqu'un d'autre pour autant ? Alors, vous pouvez vous définir par une qualité, peut-être. Je suis quelqu'un de gentil, de créatif, de fort. Oui, et peut-être que votre voisin a exactement les mêmes qualités, tout en étant une autre personne, n'est-ce pas ? En fait, vous ne pourriez même pas vous définir par vos gènes, parce que si vous aviez un frère jumeau ou une sœur jumelle, eh bien, il aurait exactement le même patrimoine génétique que vous, tout en étant une autre personne. Alors, qui êtes-vous ? Moi, quand j'avais 23 ans, je me suis retrouvé mon bac plus 5 en poche, propulsé au sein de la direction financière d'une grande entreprise. Et je me souviens que mes homologues étaient très très fiers de ce poste, de ce type de poste valorisant. Moi, il m'a suffi de quelques semaines pour réaliser que je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fait, quand les journalistes m'interrogent, ils veulent entendre parler l'auteur à succès. D'accord, ils veulent m'entendre parler de mes succès littéraires. Mais la vérité, tout à fait entre nous, hein, ça ne va pas sortir d'ici, c'est que j'ai connu dans ma vie beaucoup plus d'échecs et même d'humiliations que de succès. Et ce que personne ne sait, c'est que ce sont ces échecs et ces humiliations qui, paradoxalement, m'ont sauvé la vie. En fait, ils m'ont aidé à savoir qui je suis, et de là, tout a découlé pour moi. C'est-à-dire, quand j'avais 23 ans, je vous disais, j'ai réalisé subitement que je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne. Et partant de là, eh bien, je suis en effet allé d'échec en échec, de poste en poste, j'ai erré pendant des années, jusqu'à finir par me faire licencier. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, en général, on n'est pas très bon. Donc je me suis retrouvé au chômage. Là, j'en souris, mais j'avais tellement honte que je l'ai caché à tous mes amis, je l'ai même caché à ma famille. Et je suis resté 2 ans au chômage. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. J'ai fait une dépression, j'ai perdu 10 kilos. Mon métier m'avait échappé et mon corps semblait m'échapper aussi. Il faut dire que la nature m'a donné ce corps trop grand, trop étroit, un corps dont je tentais de dissimuler la maigreur autrefois dans des vêtements amples. Alors par chance, c'était les années 80. Rappelez-vous, c'était la mode des vestes larges avec les épaulettes ultra rembourrées. J'ai adoré cette mode. J'ai prié pour qu'elle dure. Et ça n'a pas été le cas. Alors je me suis inscrit dans une salle de musculation. Bien décidé à développer 3 cm de deltoïdes sur chaque épaule. Et pendant plusieurs mois, j'étais sur des engins de torture. Et je ne regardais personne. Je me souviens, j'étais vraiment dans ma bulle. Je ne voulais croiser aucun regard, j'étais toujours pétri de honte. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte ça, là. Parce qu'en fait, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de savoir qui on est. Et voyez-vous, moins on sait qui on est, et plus on a envie d'exister. Alors, on s'accroche à tout ce qui peut nous valoriser. Des images, des apparences, des rôles. Par exemple, on peut s'accrocher à son rôle professionnel et tenter de s'identifier à son métier, d'exister à travers son métier. Aujourd'hui, je suis écrivain, je pourrais essayer d'exister à travers ce métier d'écrivain. Et à ce moment-là, je jouerais un rôle d'écrivain. Enfin, je me mettrais à parler comme un écrivain, adopter des attitudes d'écrivain, peut-être un look d'écrivain, même si je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et le problème, c'est que si j'allais dans cette direction, en fait, plus je ferais ça et plus je m'enfermerais dans une représentation de moi-même qui m'éloignerait de qui je suis. Parce que qui je suis va bien au-delà de mon simple métier d'écrivain. Qui vous êtes va bien au-delà de votre métier. On peut s'identifier aussi, on peut s'accrocher à son apparence physique. Alors ça arrive fréquemment aux femmes et aux hommes dotés d'un physique avantageux, qui peuvent à ce moment-là chercher à exister à travers leur beauté, d'accord ? Et à ce moment-là, en fait, c'est lié à un sentiment que leur valeur repose sur leur beauté, alors qu'en fait, elle n'est qu'un attribut. Alors, ce n'est pas conscient. D'ailleurs, il y a un moyen de savoir si c'est le cas pour vous. Dans ces cas-là, vous vous sentez amoindri en présence d'une personne plus belle que vous, ou si on vante la beauté de quelqu'un d'autre. Alors que, vous voyez, un peu comme si vous aviez le sentiment que cette personne existe plus que vous, mais c'est complètement inconscient. Bon, la vérité est que votre valeur va bien au-delà de votre beauté. On peut s'identifier aussi à son intelligence, sa culture, ses idées, et tenter d'exister à travers ses propos. Et à ce moment-là, on se sent plutôt amoindri lorsque quelqu'un vous contredit. Ça vous dit peut-être quelque chose. À ce moment-là, vous vous sentez attaqué personnellement, alors que la personne en fait, a juste exprimé un désaccord sur vos idées. On peut aussi s'accrocher à ses possessions et croire que notre valeur découle de ce que nous avons, les choses que nous avons, notre voiture, notre maison, un téléphone portable, un sac à main. Et à ce moment-là, on se sent amoindri en présence d'une personne qui a une plus belle voiture, une plus belle maison, un plus beau sac, un plus beau téléphone. Moi, quand j'étais, enfin, le problème, en fait, si vous voulez, par rapport à toutes ces fausses représentations de soi-même, c'est qu'elles nous éloignent de qui on est. Elles nous éloignent de qui on est, et donc, d'une certaine façon, on risque de se perdre à travers ces fausses représentations. Moi, quand j'étais en dépression, j'avais perdu, mais naturellement, par la force des choses, toutes ces représentations, et je le vivais comme le problème à l'époque. C'est-à-dire, je ne pouvais me raccrocher à rien puisque tout se dérobait sous mes pieds. Et en fait, il s'est passé un phénomène étonnant, c'est que quand je me suis retrouvé nu, j'ai envie de dire, sans plus rien de valorisant à quoi me raccrocher, j'avais plus d'existence professionnelle, j'étais gaulé comme un haricot vert, je possédais rien, même pas une voiture, quoi. Et néanmoins, j'ai réalisé que j'existais toujours. C'est bizarre hein, de le dire, mais... Et voilà, j'existais toujours. J'avais plus rien, mais j'existais toujours. Ça m'a fait un drôle de sentiment, quoi. Et donc, je me suis mis à regarder autour de moi. Et au club de musculation, je me suis rendu compte que les membres du club se répartissaient en deux catégories. En fait, il y avait les maigrichons honteux comme moi, et puis il y avait les musclés. Et là, j'ai découvert que la salle était constellée de miroirs. Pourtant, je la fréquentais depuis plusieurs mois, mais je vous ai dit, j'étais dans ma bulle. Elle était conseillée de miroir et les musclés faisaient leurs exercices en s'admirant devant les miroirs. En fait, c'était pire que ça. C'est-à-dire ils étaient en admiration devant leur corps. Ils étaient amoureux de leur propre corps, quoi. On frôlait l'auto-érotisme. Cette vision m'a totalement libéré. En fait, j'ai réalisé ce jour-là que leur narcissisme et ma honte étaient les deux faces d'une même pièce, en fait. Les deux faces d'une même croyance que notre valeur se mesure à l'aune de notre apparence. Ce jour-là, j'ai viré mes vestes larges. Et lorsque je me suis retrouvé nu, comme ça, sans plus rien de valorisant auquel me raccrocher, eh bien, il y a des choses qui ont émergé en moi. Je me suis mis à ressentir des envies de ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et non plus des choses valorisantes, mais des choses que mon cœur me poussait à suivre. Comme par exemple le métier de formateur, un métier que j'ai exercé ensuite pendant une bonne dizaine d'années. Alors, ça peut vous faire sourire, mais dans ma famille d'intellectuels et scientifiques, formateur, c'était un petit métier, vraiment. Mais je me souviens comme si c'était hier, du jour où j'ai décidé de devenir formateur et où je renonçais à être reconnu, notamment de mes parents. Et c'était coûteux pour moi. C'était coûteux, mais je l'acceptais pleinement, j'acceptais sereinement. Et en renonçant à la reconnaissance, en fait, j'ai obtenu l'épanouissement. Sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, je vais vous emmener sur les chemins de la sagesse. Sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, il y avait deux préceptes. Deux préceptes. Alors, il y en a un que tout le monde connaît. D'accord, il est célèbre. C'est le fameux « connais-toi toi-même », hein, qui était repris par Socrate. Tout le monde le connaît. Mais il y en a un deuxième que le monde entier semble avoir oublié. Celui-là, c'est « rien de trop ». Rien de trop. Il y a 2500 ans, les sages de la Grèce antique nous invitaient à nous connaître et ne pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. À partir de là, tout a été simple dans ma vie. À partir du moment où j'ai cessé de jouer un rôle, de chercher à me valoriser, les portes se sont ouvertes comme par magie. Mais les clients sont venus à moi, les contrats me sont tombés du ciel. Et lorsque, je sais pas, 10 ou 12 ans plus tard, j'ai senti monter en moi l'appel de l'écriture, j'ai trouvé un éditeur en 15 jours. Je pense que ce qui peut vous arriver de plus beau, de plus précieux dans la vie, c'est de réaliser que vous êtes autre chose que de fausses identités et renoncer à vous valoriser à travers elles. Alors, vous ressentez peut-être à cette idée une espèce de vertige, de peur du vide. Vous vous dites peut-être, oui, ok, d'accord, mais bon, si je cesse de soigner mon image, si je cesse de mettre en avant mon métier, mes qualités, mes possessions, mes relations, enfin bref, tout ce qui me valorise, quoi, qu'est-ce qui reste ? Puis vous dites peut-être aussi, finalement, bah, je serai ignoré, quoi. Peut-être même méprisé, on ne me remarquera plus. Et en fait, voyez-vous, la vérité est à l'opposé. Parce que vous existerez enfin pour ce que vous êtes réellement. Et ce que vous êtes réellement est infiniment plus grand, plus beau, plus profond que tout ce à quoi vous avez pu vous accrocher jusque-là, quoi. En fait, votre simple présence est d'une grande valeur et n'a pas besoin d'être enjolivé d'une façon ou d'une autre. La société de consommation essaye de vous faire croire qu'il vous manque quelque chose, mais la vérité est que non, vous êtes complet. Et en lâchant prise sur ces fausses identités, ben vous allez ressentir ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que des choses vont émerger en vous, des envies de ce que vous voulez faire de votre vie. Cette fois-ci, ce sera non plus des désirs inculqués par la publicité, mais des envies véritables de ce que vous voulez faire de votre vie, des choses qui viendront du plus profond de vous-même. Vous vous dites peut-être aussi, ok, très bien, mais comment je fais pour me libérer de ces fausses identités qui peuvent vous rassurer quelque part ? Bon, pour moi, je vous en ai parlé, c'est parti de certains échecs cuisants, vous n'êtes pas obligé d'en passer par là. En fait, après, moi, j'ai eu tout un travail sur moi, j'ai eu des voyages, des rencontres, avec, je ne sais pas, des psys, des sages, des philosophes, même des chamans. Mais aujourd'hui, vous voyez, avec le recul, finalement, ce que j'en retire, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin vers la découverte de soi-même. Passer de la peur de ne pas être connu, de ne pas exister, à la confiance en soi, la confiance dans la vie. Cette confiance, on la trouve quand on apprend à s'aimer véritablement. Quand on apprend à aimer ce que l'on est quand on est nu, sans, eh bien, à ce moment-là, on n'a plus besoin de revêtir une image ou d'endosser un rôle. Cette confiance, on la trouve aussi quand on apprend à accepter l'échec. Ce n'est pas dans notre culture. En Occident, on a tendance à vouloir réussir tout à tout prix. Et en fait, vous voyez, quand on accepte ses failles, ses faiblesses, ses fragilités, eh bien, petit à petit, ça nous aide à trouver le bon endroit pour nous, à trouver notre place, quoi. L'échec, en fait, permet d'expérimenter la vie, alors que la réussite vous pousse à vous identifier au succès et donc à vous perdre. La confiance en la vie, quant à elle, on la trouve, je dirais, en s'exerçant à la gratitude, en cultivant un ressenti de gratitude. Dans notre pays, on a plutôt tendance à râler contre les événements, à être déçu de ce qui ne va pas dans notre vie. Mais si vous prenez l'habitude de mettre votre attention sur ce qui vous arrive de bien dans votre vie, et vous arrive forcément tous les jours des choses bien, même si c'est quelques instants chaque jour, donc malgré les difficultés, malgré vos problèmes, si vous mettez votre attention sur ce qui vous arrive de bien, eh bien vous allez développer, vous allez ouvrir votre esprit à ce qui vient. En fait, vous allez ouvrir votre cœur à ce que la vie va vous offrir. D'accord ? Et si vous remerciez la vie pour cela, vous ressentirez cet état de gratitude, et en s'exerçant à la gratitude, on passe du statut de déçu à celui de béni. Et une fois que cette confiance en fait est atteinte, eh bien on devient libre, libre du regard des autres, libre d'agir en son âme et conscience. Et il se passe alors un phénomène qui est assez étonnant, c'est qu'on s'intéresse moins à sa personne. En fait, c'est juste que l'on s'est connecté à quelque chose de plus grand que soi. Alors j'ai juste envie de vous dire, allez à la rencontre de votre propre chemin, allez dans cette direction, parce que c'est à ce moment-là que la vie prend son véritable sens. Bonne route, mes amis.
Ouais. Quelle justesse, quelle sagesse dans ces paroles. Effectivement, il faut se perdre pour se trouver. Voilà. Ça fait peur, ça déstabilise, c'est chaotique. Mais c'est une nécessité absolue. Voilà, donc il a traversé ce chemin, félicitations à lui. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on se fasse une petite musique et puis après on se refait un dernier petit moment humour pour ce soir. Allez, à tout à l'heure.
Elle a la peau couleur du soleil. Elle a le secret des abeilles, elle sait comment on fait des enfants. Elle, c'est un avion blanc dans le ciel, elle a déjà brûlé ses ailes, elle est née dans un ouragan. Elle, je l'ai croquée comme une pomme, elle n'en veut parler à personne. Elle a les yeux de l'océan. Elle, moitié Venise et moitié Rome. Elle a déjà aimé des hommes. Elle a le cœur comme un diamant. Elle, c'est un loup, une tourterelle. C'est un animal étonnant. Moitié velours, moitié dentelle, toujours cruelle et cependant, c'est une lady, lady elle, c'est une femme tout simplement. Elle, je connais ses châteaux de paille, elle a grandi à la campagne, elle a le sourire de ses gens. Elle, dans toutes les soirées de la ville, elle a le feeling et le style, elle fait tout ça naturellement. Elle, c'est un loup, une tourterelle, c'est un animal étonnant. Elle, moitié velours, moitié dentelle, toujours cruelle et cependant, c'est une lady, lady, elle, c'est une femme tout simplement. Elle a la peau couleur du soleil,
Elle a des larmes au goût de miel. Elle pleure comme pleurent les enfants. Elle, c'est le plus violent des poèmes. Elle n'a pas peur de dire je t'aime. Elle fait l'amour exclusivement. Elle, c'est un loup, une tourterelle. C'est un animal étonnant. Elle, moitié velours, moitié dentelle. Toujours cruelle et cependant. C'est une lady, lady, elle. C'est une femme, tout simplement.
Bonsoir. Est-ce que vous êtes chaud? J'entends rien. Est-ce que vous êtes chaud? C'est bien ce qui me semblait. Je sais ce que vous dites en me voyant. Waouh! Cette jeune trentenaire est ensorcelante. C'est fou. Je pensais pas que c'était possible d'avoir l'air à la fois aussi accessible et austère. Tout ça pour une première partie, c'est vraiment une bonne affaire. Et c'est quoi son nom déjà? Ah oui.
Cécile Marx, l'humour de demain. Cécile Marx, le succès c'est son destin. Cécile Marx, putain, en plus elle chante bien. Cécile Marx, cette fille a vraiment du chien.
Y a un mec qui me regarde super bizarrement au premier rang. Peut-être qu'il aime pas la musique. Non, c'est ridicule. Tout le monde aime la musique. Oh non, je sais ce qu'il est en train de se dire. Il est en train de se dire que j'ai l'air d'une grosse conne. Non, Cécile, qu'est-ce qu'on a dit? Pas de pensée négative. Aime-toi et les autres t'aimeront. Les gens ne rient pas de toi, ils rient avec toi. Allez, c'est reparti pour le refrain. Qui peut te stopper?
Cécile Marx, Coluche au féminin. Cécile Marx, Guy Bedos avec des seins. Cécile Marx, avec un vagin. Cécile Marx, Jamel debout avec deux mains.
J'aurais peut-être pas dû la faire cette blague sur Jamel. Ouais, là, c'est sûr, le mec du premier rang me déteste. Putain, je suis trop conne. Franchement, je comprends pourquoi je suis pas sur Quotidien. Et je viens vraiment de faire une chanson avec mon prénom et mon nom de famille dans le refrain. C'est n'importe quoi. Faut que je fasse un truc beaucoup plus modeste, un truc qui me rapproche des gens, un truc comme ça.
Cécile Marx, ce qu'elle fait, c'est pas ouf, c'est bien. Cécile Marx, franchement, c'est pas Blanche Gardin. Cécile Marx,
merde, j'ai oublié de racheter du pain.
Cécile Marx, j'espère que ça dure pas 1h20.
Merci. Merci beaucoup. Bonsoir Montreux, comment ça va? Cool. Ça vous a plu la chanson? Non, ma meilleure pote m'a dit: meuf, mais t'es folle, fais pas une chanson sur toi à Montreux, ils te connaissent pas, ils en ont rien à foutre. Ben voilà, maintenant vous me connaissez. Prends ça, Alexandra. Par applaudissement, il y a des gens qui ont des amis. C'est bien, je suis contente pour vous. On dit toujours, vous savez, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Moi, j'ai pas l'impression de choisir mes amis. Je les adore, mais par exemple, ma meilleure amie, c'est pas la meilleure. de mes amies. C'est vraiment la pire. Elle me conseille hyper mal. Genre, si je lui dis que mon mec a pas répondu à mon dernier message, elle va me dire, il a pas répondu ? Bah, baise avec son frère. Et vous savez, il y a toujours un moment dans une amitié où on se pose cette question à la con. Si jamais je tuais quelqu'un, est-ce que tu m'aideras à cacher le corps ? Elle me pose la question souvent. Elle est folle et je passe ma vie à l'attendre. Elle est tout le temps en retard. Je passe ma vie à attendre cette meuf et à chaque fois, elle me sort la même excuse. Ouais, je suis désolée, je comprends pas, ça m'arrive jamais, ça doit être à cause de la capote. Ah non, pardon, c'est pas celle-là. J'ai une autre pote, c'est, vous voyez, c'est, tu sais, l'ami que t'annules tout le temps. T'as toujours mieux à faire que de la voir, elle. Si vous voyez pas, c'est que c'est vous. Vraiment, je vous le dis. Hein. Mais en fait, elle me prend trop d'énergie. Vous savez, c'est le genre de personne qui pense avoir des particularités très particulières, alors que pas du tout. À chaque fois qu'elle est avec des gens qu'elle connaît pas, elle est là. Non, mais moi, tu vois, genre, je suis trop chelou. Genre, tous mes potes, ils me font toujours meuf, mais genre, toi, t'es trop chelou. Et je suis là, ouais, genre, je sais, genre, je suis chelou de ouf et tout. Genre, je suis un peu Phoebe dans Friends, tu vois, genre, je suis chelou et tout. Donc là, je vais te dire un truc, tu vas te dire, non, mais quoi, mais elle est trop chelou, c'est la seule meuf du monde à avoir ce truc-là. Ok. Je te dis un truc, tu me juges pas. Moi, je supporte pas les hôpitaux. Genre, quand je suis dans un hôpital, en fait, laisse tomber, je suis pas bien de ouf. Eh ben, en effet, c'est un sacré personnage, hein. Et genre, il y a un autre truc, ça, tu peux demander à n'importe lequel de mes potes, il va te dire, non, mais ça, c'est trop elle. C'est genre, moi, quand j'ai faim, faut vraiment que je mange. Putain, mais en opposition à quoi? C'est vrai que moi, quand j'ai faim, faut vraiment que j'aille acheter des cotons-tiges, quoi. Et alors, à chaque fois qu'elle se fait larguer, elle vient me voir et elle me dit, meuf, c'était un pervers narcissique. J'étais sous emprise, en fait, genre. Toi, t'étais sous emprise. Toi, t'étais sous emprise. Va dire ça à la femme de Marc Dutroux. Non, mais dis, est-ce que t'as aidé ton mec à caler des cadavres de petites filles dans des murs porteurs, toi? C'est bon, Marc, on peut en mettre deux. Ah, je crois que je fais mieux l'accent belge que le mur porteur. Et j'ai une dernière amie qui est, pour le coup, la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Tu sais, c'est la fille, tu te fais larguer, elle t'écoute pendant des heures. Tu perds ton appart, elle te prête le sien. Tu veux partir en vacances, elle t'accompagne à l'aéroport, à 6h du matin. Et toi, t'es là, mais c'est incroyable tout ce que tu fais pour moi. Je sais pas comment te remercier, sérieux, c'est fou. Et elle te dit, mais c'est normal. T'aurais fait la même chose pour moi. Franchement, non. Hein. Voilà. Moi, sinon, c'est Cécile Marx. Enfin, c'est Cécile Marx de dos, c'est Paul Mirabel. Et merci beaucoup, j'ai passé un super moment avec vous ce soir. Merci.
Et bien voilà, on termine l'émission en beauté. Elle était sympa, j'aime beaucoup. Je découvre cet humour. Cette humoriste. Voilà, pardon, autant pour moi. Ok, donc l'émission se termine aujourd'hui. On est sur l'émission 19. Si vous voulez la réécouter en podcast, c'est l'émission qui portera le numéro 19. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous. Et puis, à jeudi prochain, tout simplement. Bonne soirée.
Quand je t'aime, j'ai l'impression